Bonjour, c'est Axel Le Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air.
Professeur Antoine Flao, bonsoir. Vous êtes professeur de santé publique et vous publiez Prévenez-moi, c'est aux éditions Robert Laffont. Alors c'est un essai sous forme de roman qui parle de la prévention. Diriez-vous que la prévention est le parent pauvre de la médecine? On préfère plus évidemment agir en réaction plutôt que... avant, et si oui, pourquoi? Comment vous l'expliquez-vous?
Oui, c'est une bonne expression. C'est vrai que c'est le parent pauvre, pas simplement sur le plan économique, pas simplement de la part de nos politiques, mais c'est aussi le parent pauvre pour nous-mêmes. On est beaucoup plus calé, je dirais, à réagir, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire à traiter des maladies. On est prêt à se faire opérer quand on est malade ou à prendre des antibiotiques. C'est beaucoup plus difficile, finalement, de tenir sur le long terme sur la prévention. Par exemple, on voit ça très bien pour les moustiques. La prévention des moustiques, les touristes mettent des répulsifs sur la peau, c'est possible, quelques jours. Vous ne pouvez pas faire ça tout le temps, quoi. Donc, la prévention, parfois, paraît extrêmement exigeante, paraît très, très lourde pour la plupart des gens.
C'est ennuyeux, la prévention. C'est manger 5 fruits et légumes par jour, ne mangez pas trop gras, ne buvez pas d'alcool,
ne faites pas
d'excès. C'est une vie de moine, quoi.
Oui, la prévention est souvent
présentée. Alors qu'en réaction, on se sauve.
Ouais, mais je pense que ça, c'est un peu à cause de nous. Les experts de santé publique présentent un peu de façon triste ou nette la prévention. C'est-à-dire que la prévention est souvent présentée comme de l'abstinence, comme de la prohibition. Et ce que je voudrais essayer de montrer dans ce livre, c'est qu'on peut voir la prévention plutôt comme une réduction de risque. Essayer juste de réduire un petit peu les risques, de choisir les passages qui sont favorables à la bonne santé.
Alors est-ce qu'il y a justement des gestes de prévention qui seraient simples? Tiens, ce soir, on se dit, eh ben, tiens, je vais faire ça.
Mais par exemple, quand vous prenez le bus ou le métro pour aller à votre travail, sortir un arrêt avant, marcher 10 minutes le matin, la même chose le soir, 10 minutes le soir, c'est... très, très bon pour la santé. C'est incroyable. C'est ça, l'activité physique. Je ne parle pas de sport. Bien sûr, on peut faire du sport, etc. Mais déjà, faire un peu d'activité physique, c'est très bon. Manger un petit peu moins de viande rouge. On en mange trop en France. On mange trop de viande rouge. C'est bon, la viande rouge. On aime bien le steak. Il faut continuer à en manger. Mais un petit peu moins chaque jour, peut-être pas à midi et le soir, en prendre des tranches un tout petit peu moins grosses de temps en temps, etc. C'est très bon pour la santé aussi.
Et ça sert à quoi? Ça sert à... vivre mieux, à vivre plus longtemps? Quel est le bénéfice de la prévention?
Alors, beaucoup des mesures de prévention qui aujourd'hui sont prouvées par la science essaient de mesurer ce que vous dites. Et on voit que parfois ça prolonge la vie. Mais ce qui m'intéresse le plus dans ce livre, c'est pas tellement de prolonger la vie, c'est de prolonger les années en bonne santé de notre vie. C'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que... Alors, je prends quelques exemples. Il y a des pays qui réussissent mieux que nous en France ou en Suisse. Par exemple, les Japonais vivent... quand ils ont l'âge de 65 ans, ils vivent 7 à 10 ans de plus que les Français ou les Suisses en bonne santé. C'est quand même beaucoup. Les Suédois, qui ne sont pas loin de chez nous, parce qu'on peut dire le Japon, c'est très loin, c'est une autre culture. Les Suédois, c'est 5 à 6 années de plus également. Donc, on peut essayer de voir ce qu'ils font, que nous ne faisons pas.
Et alors ?
Pour pouvoir vivre, quand on a 65 ans, encore 5 ou 6 années de plus que ce que l'on vit déjà aujourd'hui, en bonne santé.
Parce qu'en France, c'est vrai qu'on a une longévité très élevée, mais notre vie en bonne santé est plus courte souvent les dernières années. Mais alors que font-ils les Japonais que nous ne ferions pas et qui pourraient nous inspirer?
Oui, parce qu'en France, on a un très bon système de santé. Donc même si on a des fortes incapacités à l'âge de 65 ans, on peut vivre très longtemps avec ces incapacités. Ouais. Mais ce qu'on voudrait, vous êtes d'accord, c'est quand même de vivre le plus longtemps en bonne santé. Alors qu'est-ce que font les Suédois ou les Japonais? Alors déjà, ils fument moins. Les Suédois fument pratiquement plus. Il n'y a plus que 5% des Suédois qui fument. Et pourquoi? Ils consomment autant de tabac que les Français, figurez-vous. Vous allez me dire, mais comment le consomment-ils? Ils ne le fument pas. Alors, eux, ce n'est pas tellement de la cigarette électronique, mais c'est un peu le même
genre. C'est de la chic.
Oui, ça s'appelle les snus, c'est de la chic.
Et alors, on le met dans la bouche.
Oui, mais il faut comprendre que ce n'est pas l'addiction à la nicotine qui devrait gêner les experts de santé publique. On n'est pas contre la nicotine. La nicotine, c'est à peu près comme la caféine. Je ne recommande pas de la nicotine à celui qui n'est pas...
la combustion.
Mais c'est la combustion du tabac. C'est les goudrons produits par la combustion du tabac.
Alors, objection, professeur, on fait de plus en plus de prévention. Dès 50 ans, on vous mesure des tas de choses, etc. Est-ce que d'ailleurs... et c'est quelque chose contre lequel vous nous alertez. Trop de prévention, attention à ne pas faire trop de prévention, parce qu'à force de chercher des maladies, on pourrait finir par en trouver qui seraient non létales.
Oui, alors il y a une prévention qui s'appelle la prévention secondaire, qui ne prévient pas les maladies, mais qui les détecte précocement.
Voilà.
Si vous arrivez par des dépistages, dépistage du cancer, par exemple la mammographie chez la femme, le dépistage de par la coloscopie pour le cancer du côlon, etc., vous pouvez trouver des lésions très précoces, intervenir tôt et éviter des traitements lourds. Ça, ça a été très bien prouvé par la science. Mais on ne peut pas, d'un coup de baguette magique, étendre cela à tous les cancers. Il y a des cancers pour lesquels c'est très discuté. Ce n'est pas si clair qu'il faille essayer de les dépister.
C'est vrai qu'on a beaucoup fait d'opérations de la thyroïde, on fait beaucoup d'opérations de la prostate. Est-ce qu'il faut s'interroger par moment sur le coût-bénéfice-risque, comme on dit, hein, c'est capital en médecine.
Oui, c'est capital. Je pense que le premier coût, hein, c'est d'avoir des effets indésirables, des investigations complémentaires ou des traitements qui peuvent être très lourds. Les traitements du cancer peuvent être très lourds. Donc avoir des traitements très lourds, si ça n'est pas bénéfique, si ça ne prolonge pas les années de vie en bonne santé, alors c'est questionnable. Et par exemple, vous prenez un très bon exemple, dépistage du cancer de la prostate, il y a un antigène qui s'appelle le PSA, que l'on peut détecter dans le sang, et quand il est élevé, ça pourrait être un signe de cancer de la prostate. Mais aujourd'hui, les experts nord-américains le déconseillent très fortement après l'âge de 70 ans. Ah. Et entre 50 et 70 ans, ils disent...
Moi, je viens d'en faire une, elle m'a dit « Bravo, votre PSA est faible ».
Oui,
mais typiquement, alors elle m'aurait dit « Votre PSA est élevé, hop, vous avez passé sur le billard ».
Alors, on passe pas sur le billard tout de suite. On a des examens qui peuvent être un peu douloureux, qui peuvent être un peu invasifs, qui nécessitent de faire une biopsie de la prostate par voie du rectum. C'est pas très agréable. Si c'était totalement prouvé que c'était efficace, alors... Et s'il y a des symptômes, je parle bien du dépistage. Le dépistage, c'est chez des gens qui n'ont aucun symptôme. Eh bien, si c'était vraiment prouvé qu'on vraiment gagnait des années de vie grâce à cela, pourquoi pas? Aujourd'hui, disons que c'est très débattu.
Parce qu'on peut avoir des cancers, au fond, qui ne se déclarent pas et on peut vivre et mourir de sa belle mort d'autre chose sans que ces cancers ne se déclarent jamais.
Oui, alors, ce n'est pas pour tous les cancers, mais le cancer de la prostate en particulier peut rester ce qu'on appelle indolent, c'est-à-dire qu'une partie des personnes sont porteurs de cellules qui sont cancéreuses de la prostate, mais qui, en effet, ne vont jamais tuer leurs patients.
Alors, autre maladie qui est terrifiante avec l'âge, c'est Alzheimer. Pour le coup, ça, on ne le dépiste pas, Alzheimer, puisqu'il n'y a pas de traitement. Donc, ça ne sert à rien de savoir que vous avez Alzheimer.
Oui, pour le moment, nous n'avons pas de traitement. Il y a beaucoup de pistes prometteuses, donc peut-être que nous aurons des traitements dans un avenir que j'espère proche. Mais pour le moment, vous avez tout à fait raison. Quand il n'y a pas de traitement, alors pas de dépistage précoce. Si ce n'est pour vous affoler, pour inquiéter tout le monde, pour vous angoisser, et peut-être même pour accentuer vos symptômes, ça ne sert à rien. En revanche, il y a des mesures de prévention.
Ah.
La communauté scientifique s'est accordée sur 12 mesures de prévention aujourd'hui qui ont prouvé leur efficacité pour prévenir 40% des maladies d'Alzheimer et toutes les démences apparentées du vieillage. C'est beaucoup, 40%. C'est pas 100%. Vous pouvez cocher toutes les cases et malheureusement avoir une maladie d'Alzheimer à la fin de vos vieux jours. Mais quand même, d'une part, vous pouvez éliminer 40% et d'autre part, vous pouvez peut-être retarder une partie des symptômes grâce à ces mesures de prévention. Et ces mesures de prévention, parfois, commencent très tôt. Dans la vie. Ce n'est pas toujours à 65 ans qu'il faut penser à la prévention d'Alzheimer. C'est vraiment le dépistage de l'hypertension. Moi, je suis un peu choqué pour vous dire qu'il n'y a que 20% des hommes et 30% des femmes hypertendues en France qui sont correctement dépistées et traitées pour leur hypertension, alors que vous avez accès à tous les médecins possibles et les traitements existants pour complètement contrôler
la tension. C'est une prise de la tension.
Il faut prendre la tension chez le pharmacien ou chez le médecin généraliste, puis après, il faut avoir une prescription d'un antihypertenseur qui vous la rend normale, votre tension, si jamais vous êtes hypertendu. Et cela, malheureusement, il y a encore trop de gens qui ne sont pas bien contrôlés contre leur tension, et pourtant, ça prévient en partie la maladie d'Alzheimer.
Vous avez dit 20% des hommes et 30% des femmes qui sont... Enfin, il y a une différence homme-femme. Est-ce que la prévention est genrée? Est-ce qu'on le fait plus volontiers quand on est une femme, quand on est un homme?
Alors, c'est surprenant, mais oui. Alors, c'est vrai que les faits sont là. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Et ça, dans tous les milieux socioprofessionnels.
Et ce serait dû à la prévention.
Il y a même eu des études chez les moines et chez les bonnes sœurs. Même milieu socioprofessionnel, même type d'activité. Eh bien, les bonnes sœurs vivent plus longtemps que les moines. Donc, oui, alors, il semble que les femmes... Mais c'est pas lié nécessairement au chromosome, c'est aussi lié au fait que depuis l'enfance, on façonne la femme dans un univers qui est d'aversion au risque, alors que le gars, Il faut qu'il se batte.
C'est la transgression.
Il faut, voilà. Le gars, il est dans le risque, la prise de risque.
La virilité.
C'est viril. Voilà, exactement. Donc, ce modèle de virilité. Ah. Et puis aussi, après, ça se prolonge. Vous confiez à la femme dans le foyer la prévention. Le médecin de famille sait très bien que c'est la femme qui amène les carnets de santé, qui les conserve. C'est même parfois la femme qui dit à son mari de prendre ses médicaments le soir, qui rappelle qu'il faut faire le dépistage du cancer du côlon chaque année, etc.
Voilà, c'est-à-dire l'importance de la prévention, et c'est sous forme de roman. Prévenez-moi aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup, professeur Flao.
Merci.
Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air qui revient sur le couvre-feu installé à Nice et à Béziers pour éviter que les enfants de moins de 13 ans ne traînent dans la rue. C'est dans l'air qui est intitulé ce soir Couvre-feu internat, comment rétablir l'autorité.
Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner, C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur francetv.fr. À très bientôt.